Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, on est le vendredi 31 janvier, dernier jour du mois de janvier, on va passer donc au mois de février à partir de la semaine prochaine. Et vous savez quoi, mois de février, c'est Cannes et on se retrouvera du côté de Cannes, bien entendu. Et Cannes, forcément, c'est toutes les nouveautés et l'As d'Or aussi, on découvrira qui est donc l'As d'Or 2024. D'ici quelques instants, on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Elle a encore joué à plein de jeux, Morgane, et elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Et moi, je vais vous parler d'un tout petit jeu de cartes aujourd'hui. C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Nat, pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui donc, vous allez vous mettre dans la peau d'un dinosaure. On joue à Very Badlands, un petit jeu de cartes de Markel Lavrière, qu'il a aussi d'ailleurs illustré. C'est pour 3 à 6 joueurs, mais vous verrez qu'on peut y jouer à plus, je vous dis ça en fin de chronique. Ça se joue donc à partir de 8 ans, c'est édité par Randolph et distribué par Gigamic. Dans Very Badlands, on doit tout faire pour survivre aux catastrophes planétaires. Oui, chaque joueur aura 3 vies pour son dinosaure. Et à chaque manche, eh bien, c'est le dinosaure qui a la carte désastre avec la plus petite valeur qui perd une vie. Mais vous allez voir que tout ne se passe pas forcément tout le temps comme prévu. Au niveau de la mise en place, chaque joueur va recevoir 2 cartes dinosaures et va en choisir une. L'autre est remise dans la boîte. Chaque dinosaure a un effet particulier. Puis ensuite, on va mélanger les 11 cartes désastre et tous les joueurs vont en recevoir une. On en laisse une visible au centre de la table, c'est la rivière, et le reste, eh bien, ça va dans la pioche. Votre carte, vous la mettez bien face cachée, les autres joueurs ne doivent pas la voir. Voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous avez 3 possibilités. Vous gardez votre carte désastre, elle vous convient. Vous l'échangez avec la carte visible au centre de la table. Ou vous l'échangez avec votre voisin, le joueur suivant, celui situé à votre gauche. Un échange ne peut jamais être refusé, sauf bien entendu si le pouvoir de votre dinosaure dit le contraire. Les cartes désastre ont des effets, et 2 de ces cartes ont des effets immédiats. La canicule et l'inondation. Alors l'effet de l'inondation, c'est que vous rajoutez une autre carte dans la rivière. La canicule, tous les joueurs qui ont une carte de 6 ou plus doivent l'indiquer à tout le monde. La manche s'arrête quand tout le monde a fait une des 3 actions possibles. Mais attention, le dernier joueur ne pourra pas échanger avec le premier joueur sa carte. Du coup, il a la possibilité d'échanger sa carte avec la première de la pioche. Vient ensuite le moment de la révélation des cartes désastre. Tous les joueurs vont retourner face visible leur désastre. Normalement, celui qui a la carte la plus faible va perdre un point de vie. Mais je dis bien normalement, car tout dépend du pouvoir de la carte de son dinosaure, ou de l'effet des désastres en jeu, ou de son désastre. Par exemple, vous avez la météorite, de valeur 1. Autant dire, vous avez de grandes chances de perdre une vie. Mais cette carte devient une étoile filante, une carte de valeur 12. Si la carte 11, nuit, est présente parmi les joueurs, 11 plus 1, ça fait 12. Vous voyez que tout est possible, on peut très bien être éliminé avec une carte de grande valeur, si les petites valeurs ont réussi à se sauver avec le pouvoir de leur dinosaure, ou si certaines cartes désastres sont en jeu. Par exemple, la glaciation protège le joueur qui a la plus petite valeur. Dans ce cas, lui, il sera tranquille. Le joueur qui, après les pouvoirs des cartes, se retrouvera avec la carte de plus faible valeur, lui perdra un point de vie. Quand un joueur a perdu tous ses points de vie, la partie s'arrête et tous les autres joueurs ont gagné. Alors, ce que j'en pense de Very Badlands, c'est un jeu où il faut bien choisir son dinosaure et bien réfléchir s'il faut garder son désastre ou l'échanger. Car c'est pas parce que vous avez un désastre de valeur 8 que vous êtes tranquille. Tout est possible et le chaos peut arriver, il y aura forcément du bluff. Alors, je vous ai dit que l'on peut jouer à 6, voire plus. Car il existe 2 boîtes de Very Badlands, la boîte Brachio et la boîte T-Rex. Les dinosaures ont tous des pouvoirs différents et les désastres n'ont pas les mêmes effets, donc vous pouvez les mélanger pour jouer jusqu'à 10. Et là, croyez-moi, ça va être le grand chaos. Dans Very Badlands, vous l'avez compris, vous gagnerez à plusieurs. Votre but est de survivre. Voilà, Very Badlands, dont vous avez 2 boîtes, la boîte Brachio et la boîte T-Rex, elle coûte 10€ chaque boîte. Et vous retrouvez ça, bien sûr, dès maintenant chez votre ludicaire. D'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour Soirée Jeu.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées, je sais, magique.
Et les soirées jeux, c'est tous les vendredis avec Morgane du Carnet des Geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, t'as fait beaucoup de jeux. Et est-ce que tu as découvert des nouveaux jeux ou tu avais déjà joué à ces jeux-là?
Non, j'ai découvert des nouveaux jeux. Il y en a auxquels j'avais déjà joué, mais qui sont plus anciens, mais que je prends toujours plaisir à rejouer. Il y a un jeu que j'ai découvert.
D'accord. Alors, quel jeu tu as découvert?
Du coup, on va commencer par Catan, à l'aube de l'humanité. Ça vous parle certainement, puisque c'est certainement un des jeux les plus connus au monde.
Oui.
J'ai dû y jouer une fois, il y a plusieurs années, au Catan de base. J'en gardais pas un souvenir dingue pour autant.
D'accord.
Mais là, du coup, le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est la version à l'aube de l'humanité. Donc,
oui,
c'est pas une extension, c'est bien un jeu à part entière.
Ouais.
Et en fait, Catan à l'aube de l'humanité, donc c'est un jeu, je vais essayer de pas écorcher les noms aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont bien compliqués, de Klaus et Benjamin Teuber, qui est illustré par Quentin Reignès, Andrew Bosley et Naomi Robinson. Ça a été édité chez Cosmos et distribué en France par Asmodée. Et en fait, dans cette version, on va devoir guider les premiers humains pour les aider à migrer, ouais, dans le monde entier, en développant leur savoir et leur culture. Donc, on va tous partir d'Afrique et au fur et à mesure, on va construire des huttes et emmener nos petits explorateurs sur les différents continents. Au départ, donc, les joueurs vont poser deux huttes et un de leurs explorateurs. Ces huttes, en fait, elles vont être au croisement de certains chemins. Et donc, on aura des terrains qui seront adjacents. Donc, il y a le premier joueur qui va lancer les deux dés. Et en fonction du résultat, tous ceux qui auront une hutte adjacente à un terrain de la bonne valeur de la somme des dés,
ouais,
pourront aller récupérer la ressource qui correspond. Donc, on a de la peau, on a des cornes, de la viande et de la pierre. Et ces ressources vont nous permettre de déplacer nos explorateurs pour qu'ils voyagent quand même, de construire des nouvelles huttes, d'avancer sur des pistes d'amélioration. Et en fait, dans cette phase, tu as tout le monde qui récolte des ressources du moment qui respectent bien l'adjacence. Et ensuite, tu as le joueur actif qui va pouvoir faire ses actions autant qu'il veut du moment qu'il est capable de les payer avec ses ressources.
C'est ça.
Mais c'est vrai que c'est surtout grâce à ces actions qu'on va pouvoir évoluer sur la grande carte de Catan. Et il y aura aussi la possibilité de faire du commerce avec les autres joueurs, donc pour tenter de troquer ses ressources contre d'autres ressources dont on aurait besoin. Et à ce moment-là, c'est vrai que tu pars dans une vraie phase d'échange,
ouais,
contre-proposition des autres joueurs, ça part dans tous les sens. Ou alors, tu les laisses avec leurs ressources et toi, t'échanges trois ressources identiques contre une seule dans la réserve. C'est pas toujours avantageux,
non,
mais ça peut aider aussi à mettre un petit coup de pression aux autres joueurs en disant, au pire, moi je vais prendre la réserve et puis tant pis pour tes ressources, quoi,
ouais,
tu vois ce que tu veux. Donc, ça peut être utile pour récupérer certaines ressources. Mais pour gagner, du coup, il va falloir remporter 10 points de victoire. Donc ces points, on les retrouve derrière des petits jetons qui sont aux intersections des chemins. Donc c'est le premier qui ira poser sa hutte qui va le récupérer. Et on en aura aussi sur la piste d'amélioration. Donc la piste d'amélioration, tu as 4 chemins différents. Ça permet d'augmenter en fait soit ses déplacements, soit d'accéder à certaines explorations et même d'aller chasser sur le plateau. Elle reste hyper importante pour progresser dans le jeu plus facilement, mais c'est vrai que le premier qui arrive au bout de chaque piste, il va remporter un bonus spécial et donc un point de victoire.
Ouais.
Et en fait, la victoire, elle est immédiate dès que tu as 10 points attribués. Donc là, je t'ai expliqué en gros le jeu,
oui,
mais c'est vrai,
oui,
que je pourrais pas faire de vraies comparaisons parce que ma partie de Catan, elle date vraiment d'il y a plusieurs années.
Moi, je dirais que par rapport au Catan classique, à Catan, on est sur un jeu familial, là, on est sur un initié.
Oui, il est plus poussé. Ouais.
Voilà, il est plus long aussi, hein, c'est beaucoup plus long qu'un Catan classique. Alors, je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait.
Alors peut-être oui, on n'en a pas trop parlé.
Voilà. Il était sorti, je crois, en janvier, hein, si je dis pas de bêtises.
Il y a deux ans,
ouais.
Ouais.
Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru que c'était une extension.
Oui.
Donc voilà, mais c'est un jeu à part entière avec une grande carte du monde. Moi, j'aime beaucoup ce Catan à l'aube de l'humanité. Alors, je suis pas fan du premier Catan non plus, quoi. Je trouve ça un peu.
J'ai eu le même ressenti. En fait, c'est vrai que le premier Catan, il m'avait pas du tout marqué. J'avais pas spécialement envie d'y rejouer. Et là, celui-là, j'y retourne toujours avec plaisir parce que t'évolues vraiment en fait dans ton parcours, pour aller explorer.
Ouais.
Et en fait, au début, t'as un peu l'impression que ça stagne. Hein. Enfin,
oui,
vraiment,
voilà.
T'as
du mal à avancer. Ouais.
Points,
il faut vraiment attendre.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et après, ça augmente d'un coup et tu peux cumuler des points, t'as la dynamique qui s'enchaîne et tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté interaction. T'as le côté course aux points pour aller récupérer les petits jetons avant les autres, mais autant le côté interaction, moi, il m'a bien plu parce que t'as vraiment les échanges avec les autres. Et puis, t'as deux petits personnages en plus. Là, t'as Néandertal et Smilodon qui vont venir bloquer des terrains. Donc, là, c'est vraiment le côté du jeu, c'est que tu vas embêter les autres en disant, je suis pas ici, mais toi, tu y es, donc je te mets le Néandertal et tu pourras pas les récolter. Donc, mais vraiment, cette version, elle est très chouette. Et je pense que, il manque le fait que ce soit vraiment un standalone qui soit indiqué sur la
boîte, je pense clairement, il faut dire que c'est un nouveau Catan, quoi. C'est un Catan pour les joueurs, allez, on pourrait appeler ça comme ça. autre jeu, Morgane.
Autre jeu, on est sur du plus léger cette fois avec Calçada. Calçada, c'est un jeu de Constantinos Karadjanis et Vangelis Badjartakis. Je crois que j'ai passé mon brevet aujourd'hui, des noms compliqués.
Ah ouais, là, ils sont grecs.
C'est pas fini. Illustré par Félix Wermck et c'est sorti récemment chez Piatnik. Rien qu'avec le nom, peut-être que les connaisseurs comprendront où on ira se balader parce qu'on va aller au Portugal, puisqu'en fait, les Calçada, c'est des pavés qu'on retrouve au sol au Portugal.
D'accord,
mais on n'est pas là pour parler aménagement urbain, nous on va parler du jeu, même si au final on va quand même un peu aménager nos quartiers parce qu'on va avoir un plateau devant nous qui va représenter plusieurs quartiers du Portugal et chaque quartier aura un nombre de cases spécifiques dedans qui seront également numérotées et en fait au centre de la table tu vas avoir un espèce de carrousel avec des petits jetons de couleurs dessus qui vont représenter des pavés, donc les fameux calçada. Et pour jouer, bah c'est tout simple. À son tour, t'as le joueur qui va choisir un pavé du carrousel, qui va annoncer à voix haute la couleur de ce pavé et le nombre de pavés qui étaient sur la case d'où il vient de le retirer, avant de déplacer ce pavé d'une case en sens horaire. Et en fait, cette annonce, elle va te déterminer la couleur de la tuile que tu vas pouvoir aller récupérer sur le marché, mais aussi la valeur de la case sur laquelle tu vas pouvoir aller la poser sur ton plateau.
D'accord.
Par exemple, je prends un pavé rose et que je le retire d'une case qui contient 4 pavés, je vais annoncer rose 4, je vais aller chercher une tuile rose sur le marché et je vais la placer dans un quartier où la case a bien une valeur 4 indiquée dessus.
Ok, d'accord.
Donc jusque-là, c'est pas compliqué, hein. Mais là, au final, où ça se complique, c'est que ça devient casse-tête parce que chaque quartier ne pourra contenir qu'une seule couleur, que la même couleur.
Okay.
Donc si tu mets une tuile rose dans un quartier, bah, toutes les autres tuiles de ce quartier vont être roses.
Ouais.
Et va falloir s'arranger pour que chaque tuile qu'on récupère aille bien correctement là où on a besoin. Autre complexité, c'est que tu as une piste de valeur de quartier selon les couleurs. Et en fait, dès qu'un joueur finit un quartier, il va multiplier le nombre de cases de ce quartier par sa valeur en cours. Donc c'est entre 1 et 3 points. Et la valeur de cette couleur, elle va baisser petit à petit. Donc elle baisse d'une case à chaque fois qu'il y a un joueur qui s'en sert, enfin qui a réussi à faire un quartier de cette couleur. Donc on devra faire assez vite si on a un quartier de la couleur en cours, parce que du moment où le pavé de la couleur il atteint la fin de la piste et il sort, on peut plus prendre de tuiles de cette couleur. Donc notre quartier sera bloqué, on pourra pas le finir correctement. La partie, elle va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on sorte un deuxième pavé de couleur. Et en plus des points cumulés parce que t'as rempli les quartiers pendant la partie, on va aussi avoir des points parce que sur chaque tuile t'as un motif spécifique. Et tous les motifs adjacents, les groupes de motifs adjacents à la fin te feront des points, peu importe leur couleur ou leur quartier.
Okay.
Donc t'as un double casse-tête qui se met en place entre les couleurs et les motifs.
Ouais.
Et en fait, quand tu fais une première partie de Calçada, tu retrouves forcément des sensations à la Azul.
T'es
obligé de le comparer.
quand tu m'as parlé forcément de pavé, je me suis dit et du Portugal, et on est quand même pas très loin d'Azul.
Ouais, on retrouve vraiment des sensations à Azul. T'as des règles très accessibles, t'as le côté casse-tête de poser tes tuiles au bon endroit, t'as le carrousel au milieu, enfin voilà, t'as vraiment des grosses sensations d'Azul quand tu y joues. Au début, c'est vrai que tu t'en fous un peu où tu places tes tuiles, c'est vrai que petit à petit, tu vas commencer à calculer et à te dire « Ah ouais, mais là, j'ai besoin d'avoir un déplacement à 3 pour être sûr de pouvoir poser ma tuile sur un 3 ». Donc ça monte petit à petit en casse-tête vraiment, et puis t'as des petits bonus aussi qui te permettront de déplacer les pavés avant ton déplacement ou de modifier les tuiles du marché. Donc ça, en cours de partie, ça devient utile pour récupérer ce qu'on a vraiment besoin. Mais voilà, t'as le petit côté course en plus par rapport à la Azul qui t'oblige à finir tes quartiers assez tôt pour être sûr de scorer avec eux.
Ouais.
Mais parce qu'ils valent cher en plus. Mais voilà, ça rajoute un petit plus. Ça permet aussi d'oublier un peu le matériel qui est un peu trop simple. Parce que ce genre de jeu, comme Azul, t'as envie d'avoir du beau matériel,
mais
des
oui.
belles tuiles
ouais.
à manipuler. Et là, voilà, c'est mon petit point noir du jeu. C'est le matériel qui est un peu trop basique. Alors
d'accord.
qu'on aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel dessus, quoi.
Et en parlant d'Azul, préparez-vous parce que dans un mois, il y a Azul Duel.
Oui.
Et qui est très très bon.
Tu peux encore essayer.
T'as pas encore essayé.
Je viens de recevoir et j'ai trop hâte. Ça m'a trop intrigué cette version. Non,
moi j'ai déjà joué cet été, donc c'est vrai que je connaissais le jeu. Mais tu vas voir
oui,
que
j'avais pu y jouer, ouais.
c'est plus compliqué que le premier Azul, hein, déjà.
Bah, généralement c'est le but des versions de joueurs en fait, c'est
oui.
d'essayer de complexifier,
ouais.
de le rendre un peu plus stratégique. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça.
Autre jeu, Morgane.
Ouais, on va continuer avec Dragon Castle. On reste dans les jeux casse-tête aujourd'hui.
Ouais.
Avec un jeu qui va plaire aux amateurs de Mahjong. Dragon Castle, c'est un jeu de Jeanmar H, Lorenzo Silva et Luca Ricci. Ça a été illustré par Sinichu et c'est sorti chez Asmodée aussi en 2018. Et dans ce jeu, on est sur quelque chose de très abstrait. Hein. On a vraiment quelque chose d'abstrait. Et on va devoir récupérer des fils de la forteresse du dragon qui est au centre de la table, mais qui est en train de se décrépir complètement. Donc nous, on va récupérer les tuiles pour construire notre propre forteresse. Et en fait, pour récupérer des tuiles, c'est là que tu restes sur le principe du Mahjong. À récupérer des tuiles, mais selon certaines contraintes. Donc la première tuile récupérée, elle devra forcément être placée sur l'étage qui est tout en haut de la forteresse centrale. Et ensuite, on peut en récupérer une seconde de même motif, mais exactement le même motif, sur n'importe quel étage, du moment qu'il y a un de ces côtés longs, un des côtés longs de la tuile qui est libre et donc adjacente à rien. Deuxième possibilité, on peut récupérer une seule tuile sur l'étage supérieur et un sanctuaire dans la réserve, ou défausser une tuile pour gagner un point. En fait, une fois que tu auras récupéré ces tuiles, on va les placer sur notre plateau personnel pour commencer notre propre forteresse. Donc on ira les placer au choix sur des emplacements vides ou sur des tuiles qui ont déjà été consolidées, c'est-à-dire qui ont été retournées face motif caché.
D'accord.
Enfin, côté motif caché. Et la consolidation des tuiles, en fait, elle va se faire automatiquement dès que le joueur va créer un groupe de 4 tuiles minimum de même couleur. Donc forcément, plus on fera un plus grand groupe, qu'on connectera plus tard, plus on va marquer des points. Donc tu peux t'amuser à faire des groupes de deux et puis d'un coup les relier avec une tuile et ça te fait un gros groupe adjacent.
D'accord, ouais.
En sachant qu'en plus, bah, t'as certaines couleurs qui sont plus rares que d'autres, donc faudra aussi surveiller ça pour pas être trop gourmand et puis se dire, bah, on a le temps de la faire, et en fait, pas du tout, parce qu'il y a plus de tuiles de la bonne couleur que t'as besoin pour consolider. Et en fait, en consolidant les tuiles, bah, on va les retourner face cachée et elles vont servir de base pour accueillir des nouvelles tuiles sur un étage plus élevé. Donc, lorsqu'un joueur consolide certaines tuiles, bah, il va aussi pouvoir, s'il en possède, poser un sanctuaire, donc c'est un toit que tu mets sur ta tuile. Ça va te rapporter en fin de partie des points en plus, mais par contre, ça va te bloquer définitivement l'emplacement. Tu pourras plus aller rajouter des tuiles ensuite dessus. La partie, elle se termine quand il n'y a plus de tuiles à récupérer dans la forteresse principale. Chacun aura quelque chose d'hyper joli devant soi parce que le matériel est juste trop canon dans ce jeu. La comparaison, là aussi, elle se fait comme Kasada avec Azul, mais pour le coup, Dragon Castle, c'est sorti quasiment au même moment.
D'accord.
Avec Azul.
Donc, je connaissais pas du tout ce titre Dragon Castle.
Il est vraiment sympa, mais en fait, moi j'aime beaucoup le Mahjong, et c'est vrai que quand on m'a annoncé un Mahjong à 4 joueurs, alors que c'est un truc solo normalement, j'étais un peu intriguée, et ça passe vraiment bien, mais c'est vrai qu'il est sorti quasiment en même temps qu'Azul, et Azul a carrément pris la place dessus. Mais là, voilà, t'as vraiment des stratégies complètement différentes, hein. On n'est pas sur du Azul, mais c'est vrai que tu dois faire des choix pour chaque action, parce que t'auras quand même besoin de toi de sanctuaire pour aller marquer des points avec ton temple. Mais t'as peu d'interaction, même si tu chercheras forcément à embêter les autres en prenant les tuiles qu'ils auraient besoin pour finir leur groupe de couleurs. Mais voilà, mais les règles restent simples, mais t'es pas sur un jeu qui est dénué de stratégie pour autant et de réflexion. C'est vraiment cassette. Hein. C'est vrai qu'au début, c'est un peu comme les autres jeux, tu fais un peu comme tu peux et t'avises après. Mais là, ça se met rapidement en place et t'as vraiment un matériel hyper canon avec des tuiles bien épaisses, enfin des vraies tuiles de Mahjong. Et c'est hyper agréable.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Morgane. Tiens, juste avant de partir, bah, tu vas me donner ton pronostic pour l'Asdor.
Mon pronostic Asdor, alors en famille, pour moi, c'est Captain Flip.
Ouais.
Qui devrait passer. Après, en initié, Behind.
Ouais.
En expert, Daybreak.
Ouais.
Et en enfant, les éclairs-tout.
Ok, très bien. C'est noté, c'est enregistré. On verra qui sera le plus proche des chroniqueurs et chroniqueuses la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine.
Allez,
encore un peu de temps. C'est le 27 février. Tu vois, moi, je me croyais déjà au mois de février. Hein.
Moi, je veux bien, hein, mais pas tout de suite.
Bon week-end, Morgane, et à très vite.
Ça marche, merci, bon week-end.
Salut.
Salut.